RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, dernier épisode de notre série sur les principaux candidats à l'élection présidentielle en France. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, le virulent député européen, se présente pour la deuxième fois. Et pour améliorer son score de 2012, 11,1% des voix, il a mis sur pied un mouvement très actif sur le terrain et sur Internet, la France insoumise, entièrement au service de son candidat, et qui revendique aujourd'hui 340 000 appuis citoyens. Sixième République, planification écologique, sortie des traités européens et de l'OTAN. L'ex-socialiste défend ses idées depuis plus d'un an et récolte les fruits de ses efforts. À moins d'un mois du premier tour, il devance le socialiste Benoît Hamon dans les sondages. Dans son viseur, désormais, François Fillon. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, un grand reportage signé Anthony Latier.
La France insoumise, on est là, on est. La France insoumise.
Ce 18 mars, la France insoumise s'est donné rendez-vous place de la République à Paris. Une démonstration de force, plus de 100 000 personnes dans la rue pour défendre l'instauration d'une 6e République.
Ici pour moi c'est vraiment la construction d'un mouvement, quelque chose que je pense d'historique. Il y a effectivement une personnalité qui est intéressante, mais il y a aussi tout un programme qui est en train de se défendre, un programme qui correspond à des valeurs. Ce qui se pose là, c'est la reconstruction d'une nouvelle façon de concevoir effectivement la démocratie, et c'est réellement ce qu'on est en train de défendre là actuellement.
Ce serait bien qu'on change un peu ces institutions qui permettent aux hommes politiques de faire un peu ce qu'ils veulent sans l'avis des citoyens. Et lorsque les citoyens descendent dans la rue, ils ne sont pas contents, les politiques ne nous écoutent pas non plus.
Aujourd'hui, tant de gens sont venus, et parfois de si loin. Oh, comme nous avions besoin de sentir notre force. Elle est notre liberté. Elle est le feu qui brûle en nous et ne s'éteindra jamais. Elle est le recours dont dispose la France en toutes circonstances et son peuple travailleur. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle.
Son projet politique est d'en finir avec la 5e République actuelle qu'il juge illégitime et donc il veut aller vers une 6e République.
Jean-Numa Ducange, historien des gauches, maître de conférences à l'Université de Normandie.
Le passage de la 5e à la 6e s'effectuerait par la médiation d'une assemblée constituante. Alors ce n'est pas nouveau bien évidemment, on est dans l'ancrage de la Révolution française, il y a l'idée que pour faire une nouvelle constitution qui soit plus démocratique, qui donne plus de droits aux salariés, qui octroie aussi des droits, comment dirais-je, de révocation des élus, eh bien ça passe par une nouvelle constitution. Et pour passer par une nouvelle constitution, eh bien il faut faire une assemblée représentative qui décide d'écrire une nouvelle constitution. Une assemblée constituante, ça a eu lieu au début de la Révolution française, ça a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de chacune des républiques. Et donc cette assemblée constituante donnera lieu à la future constitution que Jean-Luc Mélenchon appelle de ses voeux. Et il y a un point important, alors on a envie peut-être de dire, sauf si la constituante en décide autrement, qui serait que le futur président de la République existerait peut-être toujours, mais n'aurait plus les mêmes pouvoirs qu'aujourd'hui, car ce que critique beaucoup Mélenchon à travers cela, c'est le présidentialisme, le fait que la constitution de 1958 octroie effectivement beaucoup de pouvoir au président de la République. Donc c'est tout à fait important, c'est central même dans le dispositif politique actuel.
Nos voix montent vers cette femme que voici, Marianne, la République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout.
La 6e République, c'est désormais le premier chapitre du programme de Jean-Luc Mélenchon, balayer le système au sein duquel il a fait toute sa carrière, au Sénat, au ministère de l'enseignement professionnel et encore aujourd'hui au Parlement européen. Tout comme la planification écologique, il a mûri ses idées depuis sa démission du Parti socialiste suite au congrès de Reims, un parti dont il a été membre 32 ans.
Je suis Stéphane Aliès, j'ai 38 ans, je suis journaliste politique à Mediapart. Et j'ai écrit avec mon confrère Lilian Alemania une biographie de Jean-Luc Mélenchon intitulée Mélenchon le plébéien aux éditions Robert Laffont.
Pourquoi a-t-il décidé de claquer la porte du Parti Socialiste en 2008 ?
Il fait le constat qu'il n'est plus possible de sauver le Parti Socialiste de son penchant, si ce n'est néolibéral, au moins social-libéral, dans lequel l'avait entraîné aussi bien François Hollande que tous ceux qui composaient sa majorité, de Pierre Moscovici à Dominique Strauss-Kahn. Lui, il sait déjà qu'il va partir après le référendum de 2005 sur l'Europe, sur le traité constitutionnel européen. Mélenchon va être un des héros du non. Et la victoire du non et d'un non de gauche, qui était majoritairement de gauche à ce moment-là, lors du référendum de 2005, l'a conforté dans l'idée qu'il fallait créer quelque chose d'autre. Et c'était fort de ce constat-là, et aussi parce que durant cette campagne référendaire en 2005, battant les estrades unitaires avec le reste de la gauche, il a bien vu aussi à quel point ses interventions soulevaient les applaudissements, les vivas, et en ayant toujours eu une certaine haute idée de lui-même, il a vu que c'était peut-être le moment, la conjonction, et que son heure était finalement peut-être arrivée pour redonner un petit peu du rouge à l'idéal socialiste.
Cet art oratoire, il le déploie à chaque meeting d'envolées lyriques en comparaisons saisissantes, de longues tirades en phrases choc. Seul sur scène, s'appuyant à peine sur ses notes, Mélenchon le tribun délivre des prestations d'environ 2 heures, comme à Strasbourg le 15 février dernier.
Merci. Merci d'être là et si patient. Alors, maintenant, moi, je crée un genre nouveau, vous savez, le discours par séquence. Me voilà dehors à attraper froid avec vous, et après je vais aller parler avec une voix tout enrouée. Bon, on verra si vous serez encore là tout à l'heure.
Dehors, puis dedans, Jean-Luc Mélenchon déroule son programme. Dans la salle, des personnes de tous les âges. Jules a 20 ans, il est étudiant en histoire.
Il a un côté gaulliste en fait qui moi me plaît, c'est gaulliste social. Les gaullistes sociaux, il a l'indépendance de la France, il a compris que l'Europe, ça allait plus forcément être un grand pôle et qu'il fallait se tourner vers la mer, vers l'Amérique latine, vers l'Afrique. Pour moi, c'est des axes géopolitiques où il a tout à fait raison. Pour moi, quand je dis gaulliste social, c'est pas le ranger à droite, dans une partie de la droite. C'est vraiment le ranger dans le camp de ceux qui veulent le bien du peuple et du pays.
En 2012, Jean-Luc Mélenchon voulait rassembler la gauche de la gauche. Changement de stratégie cette année, il ne s'appuie plus sur un parti, mais sur un mouvement citoyen. Il veut dépasser le clivage gauche-droite et il en appelle au peuple pour mettre fin à l'oligarchie.
Vous devez commencer par faire la tâche numéro 1, voter et dégagez-les tous.
Le dégagisme, c'est le barbarisme qu'il a trouvé pour propager cette idée, au risque d'entrer en concurrence, sur ce créneau-là en tout cas, avec la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.
Vous n'avez plus confiance en personne, et tout le monde le sait, et on ne peut pas vivre dans une société démocratique développée en n'ayant confiance dans aucune autorité. Car la racine de la démocratie, c'est non seulement que l'on prend les décisions ensemble, les décisions seulement, par nos votes, mais que l'on consent à l'autorité parce qu'on la pense légitime, même si on n'est pas d'accord avec elle. Or, ce qui se passe, c'est que les autorités ne paraissent plus légitimes à personne. Et non pas à cause des gens qui n'y croient plus, mais à cause du comportement de ces autorités. Quand on voit les premiers personnages tricher aux impôts, s'arranger, combiner, les chefs désertés, disparaître.
Je crois que le propre de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qui fait sa force hein, dans le champ politique, c'est qu'il incarne à la fois une tradition historique profonde, ancrée, le socialisme historique, pourrait-on dire, dont il ne se revendique plus, entre guillemets, aujourd'hui directement, pour justement dire qu'il a dépassé cela, mais il y a quand même un ancrage fort dans sa rhétorique. Et en même temps, il a été voir d'autres modèles, notamment latino-américains. Il a regardé du côté de Podemos, en Espagne, qui eux-mêmes avaient aussi regardé du côté latino-américain, avec l'idée qu'il y a peut-être, vu les changements politiques actuels, quelque chose qui dépasse l'ancrage gauche-droite, qui est notamment cette idée qu'il y a quelque chose au-dessus, une sorte de populisme, mais en version positive, qui est imprégnée des théories de Chantal Mouffe, théoricienne latino-américaine très importante. C'est là où une ambiguïté est très probablement une difficulté. c'est d'occuper l'espace traditionnel de cette gauche bien ancrée et en même temps vouloir faire quelque chose qui dépasse cette ligne de clivage. Et du coup, les hommes politiques concernés par cette difficulté sont de temps en temps obligés de se référer quand même à l'espace de la gauche. Quand Mélenchon va voir Benoît Hamon qui discute même pour dire au revoir, c'est qu'ils se considèrent l'un et l'autre dans un espace proche, malgré tout. Donc à gauche, très clairement. Et en même temps, il y a l'idée que tout cela est terminé, ou est en train de se terminer, et qu'il faut en appeler au peuple par-delà les appareils et les lignes de clivage.
Les électeurs ont voté de la manière suivante. Pour Benoît Hamon, 58,65% des suffrages. Pour Manuel Valls, 41,35% des suffrages.
Un résultat auquel Jean-Luc Mélenchon ne s'attendait pas, après le renoncement du président François Hollande et l'élimination de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche en janvier a bouleversé ses plans. Le frondeur socialiste vient empiéter sur son territoire, même si les deux hommes viennent de sensibilités différentes, explique Jean-Numa Ducange.
Benoît Hamon, à l'origine, vient plutôt de ce que l'on appelle la deuxième gauche, hein, qui a été longtemps incarnée par Michel Rocard, on va dire, pour le dire vite, hein, anti-étatique, autogestionnaire, et qui ensuite a eu une sorte de tradition critique à l'égard de la tradition jacobine, pour le dire vite. Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, vient plus de la première gauche, c'était un mitterrandiste historique au départ. On peut dire que d'une certaine manière, il incarne, pas uniquement cela, mais il reprend l'héritage d'un républicain comme Jean-Pierre Chevènement, plutôt sensible à la question de l'État. Donc de ce point de vue-là, il y a des différences assez marquantes.
Les appels au rassemblement sont pour l'instant restés lettres mortes, au risque de voir la gauche éliminée du second tour. 3, 2, 1.
Et bien voilà, ça y est, on y est, encore un événement au cœur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. La campagne de la France insoumise est résolument placée sous le signe de la créativité.
Où est-ce qu'on est aujourd'hui, monsieur Jean-Luc Mélenchon ?
On se trouve sur le lieu de l'enregistrement d'une émission, que je crois unique en son genre, qui est dédiée, émission de télé, sur la chaîne YouTube, qui est dédiée au chiffrage du programme L'Avenir en commun. Alors, bon, c'est une prise de risque parce que ça dure 5 heures et on ne peut pas dire qu'un chiffrage, ce soit un exercice spécialement sexy. Mais apparemment, ça marche sur les réseaux sociaux. Et ouais, je crois que ça va être un événement.
Jean-Luc Mélenchon, en producteur d'émissions de télévision, le député européen a investi massivement les réseaux sociaux pour diffuser ses idées et pour contrer l'image qui est parfois donnée de lui dans les médias, celle d'un homme colérique, tempétueux, qui s'emporte contre ses interlocuteurs et les journalistes.
C'est pas les court-circuiter, c'est impossible, mais d'ajouter et de gagner une autonomie dans une des sphères. Moi j'appelle l'officialité la sphère des médias officiels. Hein. Bon, je sais que c'est un peu... Bon, les journalistes qui n'aiment pas trop se sentir officiels. Hein. Et puis, si on prenait le mot anglais, ce serait le underground, mais il n'est plus du tout underground. C'est le réseau social est plus important que n'importe quel réseau médiatique actuel. Alors, nous, évidemment, on est en bataille contre la sphère médiatique. On dit que c'est la deuxième peau du système. Et dans tous les pays du monde, nous sommes en butte à elle. Bon, nous sommes d'ailleurs, sans aucune originalité, traités de la même manière dans tous les pays. C'est-à-dire que, quel que soit le protagoniste, ils subissent ce que je subis ici, c'est-à-dire une bestialisation. L'homme est présenté comme une brute agressive. Et si c'est une fille, bon, on vaut mieux passer, parce que c'est encore pire. Mais je prends l'exemple de Pablo Iglesias, à qui tout le monde donnait au début le bon Dieu sans confession, avec sa petite queue de cheval. Bon, dès qu'il a dépassé les 10%, ça a été terminé. Ça a été la mitrailleuse lourde, les gros plans sur ses trous de nez, sur ses dents qui ne sont pas en bon ordre, et ainsi de suite, tout ce qu'on m'a fait. Donc on est traité partout de la même manière. Moi, j'ai tiré la leçon de tout ça, puis y compris de mes propres méthodes, qui ont leurs limites. Hein. C'est-à-dire, le choc frontal, ça a des limites. Donc j'ai trouvé quelque chose d'autre, qui a une manière plus intermédiaire. On n'est plus dans le choc frontal, on est dans la paix armée. Donc chacun occupe son espace et voilà.
Alors. Nous sommes donc dans le QG de Jean-Luc Mélenchon, dans l'endroit où s'enregistrent ses revues de la semaine. Et on va s'asseoir du coup sur le canapé où Jean-Luc Mélenchon fait ses revues de la semaine.
Allez, assieds-nous. Alors, je m'appelle Antoine Léaumont, j'ai 27 ans, je suis youtubeur. Ma chaîne s'appelle Le Bon Sens. Et je travaille avec Jean-Luc Mélenchon depuis 2013.
Quand est-ce que vous vous êtes lancé sur YouTube avec Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon, elle a été créée en 2012, dans la dernière campagne présidentielle, où à l'époque, il mettait principalement des discours. On a décidé de la relancer à l'été 2015. Et après, on a lancé en octobre la Revue de la Semaine. C'est ça qui a vraiment fait exploser la chaîne YouTube. La Revue de la Semaine, c'est une émission dans laquelle Jean-Luc Mélenchon parle face caméra. Et en une vingtaine de minutes, dit à la fois ce qu'il a vu dans la semaine qui l'a intéressé, qui n'a pas forcément été vu justement dans les médias aussi, et aussi ce qu'il a fait. Il peut revenir sur son actualité à lui. Et voilà. Là, je dois dire que ça, il a trouvé, lui, une manière de s'exprimer, une forme de relation avec les gens sur YouTube qui, lui, est très spécifique. On va avec plaisir regarder une vidéo de Jean-Luc Mélenchon parce que, à la fois, on va. Ça va être un peu souriant et on sait qu'on va passer un bon moment et en même temps qu'on va apprendre des choses. C'est surtout ça qui fait que la chaîne YouTube Jean-Luc Mélenchon marche.
Générique. Bonsoir mes amis, voici le premier numéro d'une série. Bonjour, voici le 17e numéro. Vous étiez bien encouragé par vos pouces bleus. Les 20 autres ont bien marché, je suis content.
Alors ça, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est le trophée des 100 000 abonnés de Jean-Luc Mélenchon. C'est un bouton d'argent.
Ça ressemble un peu au disque d'or d'argent.
Un petit peu, ouais. C'est un petit peu ça. C'est vrai que c'est, sur la forme, c'est assez similaire. Jean-Luc Mélenchon est la seule personnalité politique à avoir le bouton des 100 000 abonnés. Et puis, bah, pour nous, c'est une fierté.
Vous le savez, il sera physiquement dans cette salle dans quelques minutes et en hologramme à Paris.
Où suis-je ? À Lyon ? Et maintenant, à Paris.
C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant on connaît l'hologramme Mélenchon ou Mélenchon le youtubeur, mais c'est la conclusion vraiment de quelque chose qu'il a construit, quoi. Enfin, c'est pas pour rien aussi que c'est un grand amateur de science-fiction en littérature, parce que c'est comment la science réfléchit le monde et l'organisation du pouvoir pour lui. Et il a été un des tout premiers à ouvrir son blog, qui n'était finalement que la continuité de son bulletin de liaison de son courant, mais cette fois-ci qui pouvait exprimer à la première personne directement. Enfin, c'est pas anodin aujourd'hui de le voir se déployer numériquement dans cette campagne, et ça permet surtout aussi de contrôler son expression, de se débarrasser du filtre médiatique qui l'aborde autant, parfois pour de très très bonnes raisons, parfois pour des beaucoup plus discutables.
Et vous dites même qu'il a inventé en 91 un ancêtre de Facebook à des fins politiques.
Oui, effectivement, ils avaient créé ça sur un service de télématique sur Minitel, 3615 Go. GAU, et sur lequel on pouvait trouver un mur militant où les militants du courant de la gauche socialiste pouvaient échanger en direct sur telle action à mener ou tel point de programme à discuter.
Comment tu le vois, ça comme politique, toi qui as 18 ans ?
Bah, disons, pour essayer de comparer, essayer de faire une analogie, je compare un peu à Bernie Sanders. C'est-à-dire, c'est...
Le concurrent démocrate d'Hillary Clinton lors de la dernière élection.
C'est ça. Il est certes d'un certain âge, mais dans l'ensemble de ses idées, il reste quand même axé sur des propositions très, très jeunes, entre guillemets, très, très orientées vers la jeunesse, très orientées vers une démocratisation de la société. Bah, pour le comparer, c'est un peu le Bernie Sanders français.
La comparaison lui plairait certainement. À 65 ans, Jean-Luc Mélenchon s'est offert une nouvelle virginité politique aux yeux de certains. Mais parviendra-t-il à élargir son électorat, à capter les indécis et les abstentionnistes pour atteindre le second tour ? Porté par de bons sondages, lui veut le croire. Malgré la présence de Benoît Hamon, rien n'est joué, répète-t-il à ses troupes. Jean-Luc Mélenchon, l'insoumis, grand reportage d'Anthony Latier, réalisation Lorenzo Lacchesi d'année.
L'épopée des musiques noires.